Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
L'Église, on a l'habitude de dire qu'elle est une mère, mais ne serait-elle pas aussi une fiancée aux multiples atours, parures et ornements? Car à se pencher plus près de la vie de l'Église, on découvre bien vite mille et une réalités, des hommes et des femmes, des communautés qui reflètent chacun quelque chose de ce trésor. La communauté des Béatitudes en est une, cette communauté nouvelle, bien implantée dans notre région, un temps malmené, mais dont il est bon aujourd'hui de redécouvrir la beauté comme on s'émerveille à nouveau d'une fiancée. Zoom sur la communauté des Béatitudes, et en l'occurrence celle de Naï. Ce matin, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église, en ce mardi où on part à la découverte des trésors de la vie chrétienne de notre région. Autour du plateau, Moïse, vous êtes frère consacré de la communauté des Béatitudes, responsable de celle de Naï, et auteur d'un ouvrage dont on parcourira quelques passages, L'enjeu spirituel du mystère d'Israël, paru aux éditions des Béatitudes. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Nous rejoindra un peu plus tard sœur Laetitia du Cœur de Jésus, qui est sœur consacrée de cette même communauté des Béatitudes et qui est la responsable de la communication pour l'ensemble de cette dernière. Frère Moïse, aujourd'hui on va se balader donc dans la communauté des Béatitudes, on n'en fera pas le tour, comme on ne fait pas le tour d'une fiancée évidemment en si peu de temps pour reprendre cette image. Ça tombe bien qu'on vous reçoive parce que vous faites partie des membres de la communauté qui est le plus aguerri quant au mystère d'Israël, puisque c'est un point important de la communauté, on y reviendra. Je vous propose qu'on commence par le début, parlons pour ceux qui sont familiers de votre communauté, mais on va partir à nouveau à la découverte de cette communauté nouvelle. Je commencerai à aller par une question personnelle. La communauté des Béatitudes, comment vous l'avez connue, frère Moïse?
Alors, il se trouve que quand j'étais jeune, encore adolescent, mon oncle et ma tante sont rentrés à la communauté.
C'était donc il y a longtemps ou pas? Parce que les gens n'ont pas
oui,
le visuel.
Oui, donc, j'ai 53 ans. Donc,
pourtant, il n'a pas de cheveux blancs. Hein,
et donc, mon oncle et ma tante sont rentrés vraiment dans les débuts, c'est-à-dire en 1979. Moi, j'avais 14 ans à l'époque, 13 ans. Et donc, je n'ai pas tout de suite connu la communauté parce qu'on n'habitait pas dans les mêmes régions. Mais à l'âge de 20 ans, j'ai croisé la communauté et le renouveau charismatique. Et c'était pour moi un événement important. À cette époque-là, je pratiquais, mais sans avoir vraiment fait une rencontre personnelle avec Jésus. Et la rencontre avec le renouveau, c'était aussi une rencontre personnelle avec Dieu. Qui n'était plus du coup simplement une idée, un concept ou une espèce d'appel à vivre moralement de manière responsable, mais qui était vraiment une personne à qui je pouvais confier ma vie et qui me parlait, avec qui je pouvais parler. J'ai découvert la prière, j'ai découvert la joie d'être chrétien, le bonheur de prier. Et donc vraiment une vraie conversion qui a été très importante pour moi. Et donc, c'est plusieurs années après que j'ai décidé de rentrer. Mais en tout cas, cet événement-là était sans doute très, très porteur dans ma vie.
Donc, c'est une communauté catholique qui est née en France donc, au début des années 70, en 1973, reconnue de droit pontifical en 2002. C'est une communauté donc, dite du renouveau charismatique. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le renouveau charismatique, frère Moïse, comment vous présenteriez le renouveau charismatique?
Le renouveau, c'est une grande grâce qui est arrivée dans l'Église catholique en 1967 aux États-Unis, mais qui venait au départ du monde protestant. Une sorte de réveil, comme on dit dans le monde protestant, c'est-à-dire, vous savez, on est chrétien et on vit sa vie, et puis on finit par oublier un petit peu Dieu pour mettre les pratiques finalement en premier. Et donc il y a des moments comme ça où le Saint-Esprit, comme s'il s'ébrouait un petit peu, où il se manifestait de manière plus forte, et quelque chose change. Donc le renouveau charismatique, c'est une manière de prier qui sollicite beaucoup la ferveur, le sentiment, l'émotion, mais pas uniquement bien sûr, et puis la prière, la corporéité. Il s'agit de dans les prières du renouveau, pour ceux qui ont déjà été, on encourage les gens à être libres dans leur mouvement.
Et on peut danser, on peut lever les bras, on peut s'exclamer.
S'exclamer, prier spontanément. Ah oui, beaucoup de spontanéité et de liberté. Ça, c'est une grande grâce du renouveau. Ça introduit beaucoup de liberté dans la prière. Et puis, un encouragement aussi à avoir un vrai dialogue, une vraie prière personnelle avec Dieu. Alors, c'est pas que ça n'existe pas dans l'Église par ailleurs, mais c'est vrai que le renouveau a été une grande grâce pour l'Église pour renouveler ce qui était déjà donné dans l'Église.
Vous appeliez au début la communauté du lion de Juda et de l'agneau immolé. Ça dit aussi quelque chose justement de la ferveur des débuts. En 1991, vous avez pris le nom de la communauté des Béatitudes. Alors c'est une communauté, aujourd'hui on mettra particulièrement un coup de zoom peut-être sur deux réalités de cette communauté que sont ce que vous vivez, l'attention que vous avez au judaïsme et au mystère d'Israël, donc à l'intérieur de votre communauté, et puis la pastorale des jeunes, enfin l'attention que vous avez aux plus jeunes, ça sera avec Sœur Laetitia un peu plus loin dans l'émission. Des apostolats, vous en avez une multiple. L'évangélisation par les médias, donc la pastorale des jeunes, j'en ai parlé. Mère de miséricorde, que vous avez fondée aussi, pour ceux qui connaissent. Dans notre coin, à propos des médias, il y a Radio Ecclesia qu'on retrouve à Nîmes, les éditions des Béatitudes. Toute communauté a quand même en général, un appel particulier, un charisme, celui des Béatitudes. Quel serait-il ? Aujourd'hui, on fête la Saint Thomas d'Aquin, donc pour les dominicains, c'est pas très compliqué,
ouais.
Mais vous,
pour les dominicains, c'est la prédication. Nous, notre charisme particulier, c'est justement de ne pas avoir de spécificité particulière. Nous faisons tout, ou plutôt...
Vous êtes les généralistes, c'est ça, c'est...
On peut dire comme ça, nous sommes ouverts à tout, en fait, finalement, pour ce qui est des missions. C'est-à-dire ici, on va faire de l'enseignement, là-bas, on va faire de la santé, on tient un hôpital, dans un autre endroit, ce sera du social, on accueille par exemple des filles mères au Mali, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses, il y a aussi des lieux de vie spirituels, des centres de retraite. Donc il y a vraiment, on peut dire qu'on est ouvert à tout. Par contre, quand même, nous avons un charisme, et notre charisme principal, c'est la communion des états de vie, incluant la vie dans l'esprit, donc j'ai déjà parlé du renouveau charismatique, la vie dans l'esprit, et la communion des états de vie, ça c'est vraiment ce qui est tout immédiatement visible lorsqu'on entre dans un foyer de la communauté des Béatitudes, où que ce soit dans le monde, on y trouvera des frères consacrés, y compris des prêtres, des sœurs consacrées, et puis aussi des laïcs avec des familles, des personnes célibataires éventuellement, mais aussi des familles, éventuellement des enfants qui ne sont pas membres de la communauté, bien sûr, mais l'ensemble vit ensemble pour une part, au moins les laïcs peut-être un peu moins, prient ensemble et puis fonctionnent ensemble pour la mission. Et c'est même quelque chose que nous essayons de mettre en avant lorsqu'on organise par exemple un pèlerinage, on va essayer de mettre en avant des frères, des sœurs, et des laïcs pour manifester la complémentarité des états de vie.
D'ailleurs, si on va chez vous, parfois ce sont des laïcs qui conduisent la prière, en tout cas le matin
tout
et le
fait.
Soir. Ça peut surprendre, mais ça dit quelque chose donc, de cette complémentarité des états de vie. Alors, vous avez traversé une crise il y a quelques temps. Le résultat de cela, vous avez été accompagné par un frère dominicain, qui est le frère Henri Donneau, certains le connaissent peut-être, en tout cas qui est à Toulouse. Qu'est-ce que ça a changé, ou qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Vous vivez cette communion des états de vie, mais avec une séparation plus franche, c'est ça qu'on peut résumer ?
Je ne dirais pas le mot séparation, c'est pas très approprié. Effectivement, on pourrait dire une meilleure distinction des états de vie et une meilleure organisation pour que chaque état de vie soit mieux respecté dans son identité propre. Parce que c'est vrai que les besoins des sœurs consacrées, par exemple, et des familles sont très différents. Les besoins des prêtres, c'est encore autre chose. Donc c'était nécessaire, il s'est avéré nécessaire dans le temps, que le responsable d'un frère consacré, le premier responsable, soit lui-même un frère consacré, et pareil pour les autres états de vie. C'est ça l'enjeu particulier de cette structure canonique nouvelle que nous avons depuis 2010, où désormais il n'y a plus un seul responsable pour un lieu de vie, par exemple à Nouanaï. Il y a un coordinateur qui est le responsable de l'ensemble, mais le coordinateur est entouré des trois responsables qui sont le responsable des frères, le responsable des sœurs et le responsable des laïcs. Et ça, c'est très important.
Si vous nous emmenez dans la communauté des Béatitudes de Nai, donc qui est, on va dire, au balcon des Pyrénées, ça prend quelle forme ? C'est-à-dire, chacun est dans un bâtiment séparé, vous vous retrouvez pour les repas, pour les offices ?
Oui, alors à Nai, c'est le bâtiment, pour ceux qui le connaissent, c'est un bâtiment, un unique bâtiment carré, un ancien monastère de Dominicaines, qui est situé au pied des Pyrénées. C'est très beau, hein, faut absolument venir voir. On a vu sur la chaîne des Pyrénées le Gabizos notamment, une très belle montagne qui est en face de nos fenêtres. Et alors donc on trouvera une aile réservée pour les sœurs, une autre aile réservée pour les frères, une aile réservée pour les familles, puisque il y a deux familles qui occupent des appartements qui sont sur une aile, et puis une quatrième aile réservée pour les laïcs célibataires, et puis encore un autre endroit pour les accueillis. Voilà un peu comment ça se présente.
Nail, comment vous êtes arrivé à Nail? À chaque fois, enfin, on espère, hein, vous êtes conduit par la Providence. J'ai cru comprendre que tout est né d'une rencontre providentielle en 1978 entre des frères et sœurs de la communauté et un couple qui leur parle d'un monastère à l'abandon. Est-ce bien cela?
Oui, ça se passait à la grotte de Lourdes. Les premiers frères et sœurs, hein, il faut se situer en 1978, nous avions encore très peu de maisons. C'était les débuts de la communauté. Et donc, certains frères et sœurs étaient venus prier à Lourdes. Et puis là, quelqu'un s'approche en leur disant « Savez-vous qu'il y a, à 20 km d'ici, un monastère laissé à l'abandon depuis quelques années par les sœurs dominicaines? Est-ce que ça ne vous intéresse pas ?» Et donc, quelqu'un va visiter les lieux. Et puis, ça correspondait à un désir de notre fondateur de s'installer proche de Lourdes. Et donc, c'est comme ça que la rencontre s'est faite et que nous avons acquis ce bâtiment, qui est effectivement inoccupé depuis longtemps, qui était dans un état assez limite. Hein. C'était à cette époque-là, il n'y avait pas encore de chauffage, beaucoup de choses qu'il fallait refaire. Mais enfin bon, en tout cas, nous avons acquis les lieux et nous y sommes. Alors, le bâtiment de Nail, aujourd'hui, la communauté de Nail est l'une des plus anciennes de la communauté des Béatitudes, puisque d'autres lieux qui étaient plus anciens ont été fermés. Et donc, nous avons fêté en septembre dernier nos 40 ans. Nous sommes très fiers. Nous étions entourés de beaucoup d'amis. C'était une très belle fête.
Combien vous êtes maintenant dans la communauté à travers le monde?
Et
combien de maisons?
45-50 maisons, 15 en France, une bonne douzaine encore en Europe à l'extérieur de la France. Le reste sur les autres continents, dont 7-8 en Afrique. Mais vraiment les 5 continents jusqu'en Nouvelle-Zélande.
Oui. Et 4 dans notre sud-ouest, donc Nail, près de Toulouse, Blagnac, Lourdes, et la quatrième c'est
Saint-Martin-du-Canigou.
Saint-Martin-du-Canigou, pardon. Frère Moïse, vous êtes aussi donc, vous accompagnez souvent des pèlerinages en Terre Sainte, vous êtes donc très féru du judaïsme. Vous avez écrit ce livre, L'enjeu spirituel du mystère d'Israël. Alors il y a une particularité au sein de la communauté des Béatitudes, c'est donc de fêter entre autres, alors je ne sais pas, vous vous associez au Shabbat, vous fêtez le Shabbat, comment on dit exactement?
Nous faisons une prière d'entrée en Shabbat le vendredi soir. Donc, pourquoi le vendredi soir? C'est que le Shabbat, c'est le samedi, effectivement, mais le jour commence toujours la veille au soir dans le judaïsme et aussi d'ailleurs pour nous lorsqu'il y a une solennité. Donc, le vendredi soir, on entre dans le Shabbat et nous faisons une prière pour nous associer, pour prier avec nos frères juifs parce que c'est un élément très important de notre identité chrétienne. Ça ne concerne pas uniquement la communauté des Béatitudes, mais il s'agit de l'enracinement de notre foi chrétienne dans le judaïsme et dans l'Israël biblique.
Alors, à propos du judaïsme, j'aimerais vous poser 2-3 questions. Ceux qui connaissent bien trouvent que c'est des questions grossières, quoi, enfin surtout peut-être les premières, mais il est toujours bon de repartir un peu de zéro. Donc, vous avez écrit ce livre, L'enjeu spirituel du mystère d'Israël, paru aux éditions des Béatitudes. Vous rappelez déjà, on le dit souvent à cette antenne, mais il est toujours bon de le redire, que la révélation chrétienne ne veut pas dire que Dieu a retiré son alliance au peuple juif. Est-ce qu'on peut commencer par ça? Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, Saint Paul le dit bien, les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Et ça, vraiment, il faut que nous rayons, si nous avons ce schéma-là dans la tête, il faut vraiment que l'effacer. Quand le Seigneur donne, il ne retire pas. Le Seigneur est rempli de miséricorde, ce qui ne signifie pas qu'il est totalement indifférent au mal qu'on peut faire et si on se détourne de lui. La Bible est traversée de manifestations de la colère de Dieu, qui n'est sans doute pas comme la colère des hommes, mais qui montre que le Seigneur est loin d'être indifférent au mal. Mais en revanche, le Seigneur est toujours rempli de miséricorde. Et donc, jamais on peut imaginer que même celui qui se détourne de lui finisse par être victime de la réprobation éternelle de Dieu. Ça n'existe pas.
Donc Dieu maintient son alliance donc au peuple juif, donc peuple élu, peuple de la première alliance.
Et comment pourrait-il faire autrement? C'est son peuple aimé, c'est celui qu'il a choisi. J'ai aimé mon séjour à Jérusalem, dit le Seigneur. Donc il est clair que l'amour de Dieu pour Jérusalem, pour Israël, demeure éternellement.
Vous dites quand même donc dans l'enjeu spirituel du mystère d'Israël, à un moment, alors c'est plutôt à la fin de l'ouvrage, la chose suivante, le salut était pour Israël, mais la grande partie d'Israël s'est endurcie. Alors Dieu s'est tourné vers les païens. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y aurait donc une forme d'endurcissement d'Israël, pour reprendre un autre de vos termes, qui serait quelque part voulu par Dieu?
Oui, alors c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Saint Paul. Donc là, nous sommes au moment de la fin des derniers temps, au moment de la venue dans la chair de Dieu en Jésus-Christ. Il s'est passé quelque chose qui est quand même assez étonnant, c'est-à-dire que c'est une époque où le peuple d'Israël était dans l'attente très fervente du Messie, et le Messie vient, et de manière extraordinaire, étonnante, quand on prend du recul dans l'histoire, il n'a pas été reconnu par le peuple qui était précisément choisi pour l'accueillir. Et donc concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quand même quelques Juifs qui se sont convertis, évidemment, la Vierge Marie, les apôtres, les premiers croyants étaient tous des Juifs. Je ne dis pas que l'ensemble des Juifs a entièrement refusé Jésus, mais une partie, oui. Et la plus grande partie, et c'est la douleur que saint Paul énonce au début du chapitre 9 de l'Épître aux Romains, de dire, mais tous mes frères de race, je voudrais être anathème pour eux, pour qu'ils reçoivent Jésus, et ils ne l'ont pas reçu. Alors saint Paul essaye d'expliquer ça en disant, il fallait qu'il en soit ainsi, ça fait partie du dessein de Dieu, cet endurcissement apparent qui semble être la responsabilité de chaque Juif, en réalité, est aussi le désir et la volonté de Dieu pour permettre l'entrée dans l'alliance des païens. C'est comme si c'était une nécessaire fermeture pour qu'une autre porte s'ouvre pour les païens.
Il y a un autre point, et après on fera une première pause musicale. Vous parlez un moment, dans un autre chapitre, Israël aujourd'hui, de la mission du peuple juif. Vous dites la chose suivante, toute élection implique une mission, car le choix de Dieu est une grâce. Quelle est la mission dans ces cas-là du peuple juif? On dit souvent que ce sont nos frères aînés, mais enfin on peut très bien se dire, c'est comme le grand frère de la famille, mais qui a pas compris grand-chose. Certes, il reste membre de la famille, mais il a pas de fonction particulière.
Oui, non, le grand frère n'est pas à la retraite. Le grand frère, le peuple d'Israël, a encore une mission importante dans le monde. Il manifeste à travers son élection que Dieu est présent. Il rend visible la présence de Dieu dans le monde. Et donc, pour nous, les chrétiens, on peut dire, on a tous les moyens de salut en Jésus, on n'a plus besoin du peuple juif, sauf que si le peuple juif n'est plus là, eh bien, la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu n'est plus manifeste de la même manière.
C'est-à-dire ?
Eh bien, c'est-à-dire que le Seigneur a fait alliance avec son peuple, et si vraiment Israël n'était plus le peuple élu, s'il n'a plus rien à voir, s'il n'a plus rien à dire, eh bien, il est clair que du coup, ça veut dire que la miséricorde de Dieu n'a pas de sens. Et si elle n'a pas de sens pour Israël, elle n'a pas de sens pour nous non plus. Et par ailleurs, le peuple d'Israël manifeste aussi pour le monde donne un magnifique témoignage de consécration. Il faut voir un peu la vie d'une famille juive religieuse. C'est magnifique de voir comment tout instant, toute chose est comme consacrée à Dieu. Toute leur vie est comme tournée vers Dieu, ce qui est un témoignage qui est très important pour le monde d'aujourd'hui, un monde très sécularisé.
On va faire une première pause musicale, frère Moïse, et puis on va vous retrouver pour mettre un coup de zoom justement sur une des propositions que fait la communauté des Béatitudes de Nice. Ça s'appelle la Journée Lumière. C'est le 1er février prochain. Ça sera l'occasion de parler, donner les grands traits d'une conférence que vous allez donner à cette occasion, faire de sa vie une consécration pour faire suite justement à votre propos sur le peuple juif. Je rappelle le titre de votre livre pour ceux qui nous quitteraient maintenant, L'enjeu spirituel du mystère d'Israël, paru aux éditions des Béatitudes. Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Zoom sur la communauté des Béatitudes, en l'occurrence de Nice, et donc pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce jour, autour du plateau Moïse, frère consacré de cette communauté responsable de celle de Nice, auteur donc d'un ouvrage, L'enjeu spirituel du mystère d'Israël, paru aux éditions des Béatitudes, et nous rejoindra à la fin de l'émission Laetitia du Cœur de Jésus, sœur consacrée de cette même communauté des Béatitudes et responsable de la communication. Frère Moïse, le 1er février prochain va donc avoir lieu à la communauté des Béatitudes de Nice une journée intitulée les journées lumière, vous allez donner une conférence sur le thème faire de sa vie une consécration. C'est une apostrophe ou une adresse qui concerne tout à chacun, à l'image de cette communauté où différents états de vie cohabitent, y compris presque dans le même monastère. C'est ce que vous disiez au début de l'émission, c'est une des caractéristiques ou un des charismes de votre communauté, des consacrés, des prêtres, hommes et femmes, en tout cas pour les consacrés, et puis des familles et des laïcs. À propos de la consécration, allez, vous nous disiez aussi avant la pause que pour ça, le peuple juif est un modèle. Est-ce à dire que nous, chrétiens, peut-être la seule habitude dominicale peut nous donner l'impression que la consécration est réservée à certains ?
Oui, et on peut dire que, de fait, c'est depuis le Concile Vatican II, quand on parle des consacrés, on parle des religieux, ou des religieux au sens large, ça inclut les instituts séculiers et toute forme un peu de vie religieuse, mais on parle souvent, on a dans la tête l'idée des consacrés par les trois vœux de pauvreté, chasteté, obéissance, et on oublie un peu trop souvent que par le baptême, nous sommes déjà consacrés. Et donc ça, c'est une réalité dont il est nécessaire de reparler. Notre vie chrétienne ne consiste pas simplement en l'accomplissement d'une certaine morale, fût-elle parfois un peu héroïque, mais il s'agit d'être consacré, d'être offert à Dieu.
Alors le mot consécration, si vous pouviez d'abord revenir là-dessus, il me semble que vous faites non pas une exégèse, mais un petit développement autour du mot consécration. Qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Oui, dans la Bible, consécration, sanctification, c'est la même chose. C'est-à-dire, on ne distingue pas entre le sacré et le saint dans le vocabulaire biblique. C'est le même mot hébreu, kodesh, kadosh, la même racine qui signifie ça. Donc la sainteté appartient en propre à Dieu. Dieu seul est saint. Mais la volonté de Dieu, c'est aussi de manifester sa sainteté au monde et puis aussi de sanctifier les hommes, ce que l'on voit de manière très, très claire dans l'ensemble de la Bible.
Justement, alors vous allez vous pencher, et puis vous le faites pour nous un peu en avant-première, en tout cas ça donnera des éléments de réflexion pour tous ceux qui ne pourraient pas rejoindre cette journée, et puis une fois de plus ça parle de votre communauté, vous penchez donc sur l'Ancien et le Nouveau Testament. À propos de l'Ancien Testament, vous commencez par rappeler que la consécration, c'est d'abord une manière de se tourner vers Dieu, un Dieu trois fois saint, comme il est dit dans les Écritures, comme il est souvent répété, saint, saint, saint. Pourquoi cette mention est-elle, pourquoi commencez-vous par cela ?
Ben oui, à la Bible, à la messe, quand on arrive le moment de la prière eucharistique, on chante cette phrase qui est tirée de la Bible, saint, 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 le Seigneur Dieu Sabaoth. Donc ça fait référence à cet épisode important de la vie d'Isaïe où il raconte qu'il était dans le temple.
Isaïe, prophète donc de l'Ancien Testament.
Le prophète Isaïe, oui, bien sûr. Il raconte qu'il se trouvait dans le temple et puis tout à coup il a une apparition divine. Et il a vu, donc il a été vraiment presque terrorisé par cette manifestation extraordinaire de Dieu, entouré des anges qui criaient ça, « Saint, 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 le Seigneur Sabaoth ». Donc l'expérience de la sainteté de Dieu pour Isaïe et dans la Bible, c'est d'abord une expérience de frayeur, parce que Dieu est transcendant, parce que Dieu est extraordinaire, parce que Dieu est très grand, et que s'approcher de Dieu ne se fait pas comme ça, comme on s'approche de n'importe quelle personne que l'on connaît. Dieu est vraiment redoutable, comme on dit souvent dans la Bible. Et le premier sentiment avec lequel il faut s'approcher de Dieu, c'est la crainte de Dieu. C'est quelque chose qui nous est finalement assez peu naturel, mais dont il est bon d'y revenir. Et de se mettre à l'écoute de l'enseignement de l'Ancien Testament à ce sujet.
Vous dites que les psaumes aussi en sont pétris, donc de cette sainteté de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il est important de revenir à cela, frère Moïse ?
Mais parce que nous avons la grâce de savoir que Dieu s'est incarné en Jésus-Christ. Et donc, du coup, Dieu a pris le visage d'un homme, et un homme qui est mort pour nous, qui s'est laissé humilier jusqu'à mourir comme un esclave. Donc, pour nous, Dieu a pris un visage très aimable. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Mais ça n'exclut pas, ça ne détruit pas tout à coup le visage, le vrai visage de Dieu, qui est vraiment le créateur transcendant, redoutable, pour lequel, dès que je commets quelque chose de mal, eh bien, j'encours la colère de Dieu d'une manière qui est légitime, qui est juste. Je pense que c'est vraiment, il faut tenir les deux sous peine d'avoir une image très fausse de Dieu. Dieu n'est pas simplement que mièvrie, miséricordieuse et bisounours, si vous voulez.
À propos de l'Ancien Testament, vous relevez aussi donc que le peuple de Dieu donc est appelé à la sainteté. Donc c'est comme un double mouvement entre Dieu et son peuple. C'est-à-dire que la sainteté n'est pas réservée à Dieu. Qu'est-ce qui dans l'Ancien Testament nous parle de cela ?
Oui, je crois que c'est la bonne nouvelle de toute la Bible. Là, en disant ça, on touche à quelque chose de tellement beau.
C'est un Dieu grand, mais pas totalement inaccessible, c'est ça ? Ou en tout cas, sa sainteté n'est pas inaccessible.
Il est grand, il est transcendant par essence, il est séparé totalement, c'est ça que signifie saint, finalement, séparé. Mais justement, la bonté, l'amour de Dieu, puisque finalement, l'identité de Dieu, avant même d'être grandeur et transcendance, c'est d'abord d'être amour et miséricorde. Et la bonté de Dieu, c'est de se pencher sur sa création. Et il s'est choisi le peuple d'Israël précisément pour communiquer sa bonté, son amour et sa sainteté. Donc le choix de Dieu a comme retiré un peu Israël du monde et du coup en a fait un peuple saint. Mais pas saint exactement comme Dieu est saint. Dieu est saint par nature et Israël est sanctifié par Dieu qui est le seul saint.
Et il y aurait des passages comme ça dans les Écritures que vous voudriez citer qui parlent de cet appel ou de la manière dont se fait cette alliance ou ce cheminement ?
Oui, je pense par exemple au premier verset de Lévitique 19. Ainsi parle le Seigneur, « Soyez saints parce que moi, le Seigneur, je suis saint. » Un magnifique verset, « Soyez saints parce que je suis saint. » Donc, tournez-vous vers moi, soyez entièrement ouverts, accueillants, ouvrez la bouche, les yeux, les mains, tout, pour recueillir ce que je suis. C'est déjà, dans ce verset, on pourrait dire déjà le mystère de l'incarnation en Jésus-Christ qui est comme anticipé. Le Seigneur dit, je désire vraiment descendre au milieu de toi, ce qui se réalise d'ailleurs par le sanctuaire. Le Seigneur dit quelque chose de très beau d'ailleurs, quand il donne l'ordre à Moïse de construire la tente de la rencontre, il dit à Moïse, « Fais-moi un sanctuaire, pour que je puisse résider parmi eux. » Non pas que je puisse résider à l'intérieur de ce sanctuaire, comme une espèce de boîte fermée où de loin le peuple pourrait s'approcher de moi, non. Pour qu'à travers le sanctuaire, j'habite au milieu de mon peuple. On voit vraiment à travers le sanctuaire le désir de Dieu d'être proche de son peuple.
Frère Moïse, je rappelle que le développement de cette deuxième partie, donc c'est faire de sa vie une consécration. C'est une conférence que vous donnerez à l'occasion d'une journée lumière le 1er février prochain. Je vais poser la question de manière un peu provocante. J'espère ne choquer personne, mais à ce stade, pourquoi allez-vous piocher dans le Nouveau Testament pour développer davantage votre propos ? Dans le fond, un Dieu grand, saint.
Dans l'Ancien Testament.
Maintenant, vous allez nous parler du Nouveau Testament. Là, vous nous avez dit que dans l'Ancien Testament, Dieu est saint, il veut faire alliance avec son peuple. C'est cette image du Dieu qui s'invite sous la tente d'Abraham. De quoi a-t-on besoin de plus ?
De fait, si maintenant on passe au Nouveau Testament, on voit que Jésus, quand il s'approche de Jean-Baptiste au Jourdain, il se manifeste, non seulement on entend la voix du Père, mais on voit aussi la descente de l'Esprit-Saint sur lui. Et le Seigneur lui-même, Jésus, explique ce qui s'est passé lorsqu'il arrive à la synagogue de Nazareth et qu'il dit, il cite le prophète Isaïe, Isaïe 61, en disant « Le Seigneur m'a consacré par l'onction pour que je porte la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer une année de grâce, libérer les opprimés, etc. » Donc, le Seigneur lui-même est, on peut dire, le Saint de Dieu. Et d'ailleurs, dès le début, les démons qui voient les choses dans la lumière céleste, même si c'est tout démon qu'ils sont, eh bien, quand ils sont expulsés par Jésus, partent en criant « Tu es le Saint de Dieu ». Et Jésus est vraiment le Saint de Dieu. Donc la sainteté que le Seigneur désirait donner à son peuple Israël, était comme concentrée en Jésus. Et Jésus a été entièrement rempli de l'Esprit Saint et entièrement consacré. Il est celui qui a atteint un degré de sanctification que le peuple d'Israël ne pouvait pas atteindre par lui-même.
Alors je vous repose la question de manière un peu triviale, mais puisque une des grâces de la communauté, donc c'est toutes les communautés se nourrissent de l'Ancien Testament, mais vous particulièrement donc de la tradition juive, en quoi ce que vous venez de décrire, ce que Jésus signifie de la consécration à laquelle on est appelé serait appelé tout baptisé, en quoi est-ce une bonne nouvelle, une nouvelle nouvelle?
La nouvelle, c'est que en Jésus, tout à coup, il n'y a plus de sacré et de profane. Et là, on touche à la spécificité du christianisme par rapport à toutes les autres religions. Dans la plupart des autres religions, il y a des lieux sacrés, il y a des lieux profanes. On ne s'approche pas de la même manière d'un lieu sacré, on doit se préparer, etc. Dans le christianisme, il n'y a pas de lieu sacré de la même manière, puisque à travers l'incarnation, Dieu s'est fait chair de la chair des hommes, et désormais toute chair est sanctifiée, toute chair est consacrée. Et comme Jésus le dit d'ailleurs à la Samaritaine, l'heure vient où ceux qui adorent adoreront en esprit en vérité et non plus spécifiquement à Jérusalem ou au Mont Garizim ou n'importe où ailleurs. Donc la bonne nouvelle du christianisme, c'est que Dieu est partout présent par le don du Saint-Esprit.
Donc quand vous nous disiez précédemment qu'en fait le peuple juif, dans sa vie, toute sa vie est consacrée, chacun de ses actes quotidiens, etc., en fait une bonne manière de comprendre ce que serait le christianisme, c'est que nous, on devrait vivre ça de manière, on va dire, exponentielle, c'est ça ou...
Mais bien sûr que nous, par notre baptême, nous avons reçu la plénitude du Saint-Esprit. Et donc, nous sommes comme Jésus, finalement, au bord du Jourdain. Nous avançons vers Jérusalem avec une vraie consécration de vie. Et chacun de nos gestes, chaque seconde de notre existence doit être offerte à Dieu, comme consacrée à Dieu et comme le fruit de l'Esprit qui agit en nous.
Pour finir, Frère Moïse, c'est le but de cette journée, c'est pas seulement de réfléchir, mais c'est aussi de partir avec des pistes. Alors, il y aura des ateliers à l'occasion de cette prochaine journée, donc du 1er février, jour des Lumières. Entre autres, organiser son lieu de vie, son agenda, sa vie de prière, se disposer intérieurement avant d'arriver à la messe, le rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous donneriez comme 2-3 pistes qui pourraient nourrir nos auditeurs?
Oui, ça c'est très important, puisque la consécration de vie, c'est pas une affaire intellectuelle ou théorique, ça doit devenir pratique dans nos vies. Donc moi, je m'inspire beaucoup, parce que ayant habité en Israël aussi, j'ai toujours été fasciné par le témoignage du peuple juif, et je vois que dans la vie juive, effectivement, la vie est vraiment consacrée à Dieu. Donc par exemple, dans le judaïsme, à tout instant, on va exprimer une bénédiction, offrir une bénédiction à Dieu. On mange quelque chose, un fruit, et on va dire une bénédiction à Dieu pour le rendre grâce pour le fruit de la terre. On boit un verre d'eau, pareil. On entend une mauvaise nouvelle, et bien on va rendre grâce à Dieu pour qui fait toutes choses bonnes malgré tout.
On va aux toilettes aussi. Excusez-moi, c'est trivial, mais j'ai cru comprendre que même pour des choses aussi simples, parfois...
Des choses très simples et très basiques comme ça, mais alors je ne sais pas précisément pour les toilettes. Merci en tout cas de la question. Mais alors il y a ça, il y a aussi le Shabbat qui est un élément très important, c'est-à-dire que tout à coup dans la semaine on s'arrête pour Dieu. Donc pour nous ça c'est une chose très importante. Une vie qui s'écoule où on court sans arrêt depuis le début de la journée jusqu'à la fin sans à un moment donné s'arrêter est une vie perdue, une vie gâchée. Il faut au contraire et de plus en plus s'arrêter, même si c'est juste une minute toutes les heures ou 5 secondes toutes les demi-heures. Mais il faut simplement faire retour sur soi, s'arrêter et dire « Seigneur, ce que je suis en train de faire là et qui occupe beaucoup mon esprit, eh bien je te l'offre ». Et il y a beaucoup de choses comme ça qu'on peut faire. L'idée, c'est de se présenter à Dieu. C'est ça une vie consacrée, c'est une vie où on s'offre, où on offre quelque chose comme un sacrifice, si vous voulez. Dans la Bible, on voit qu'il y a différents styles de sacrifices. Il y a des holocaustes, des sacrifices de péché, des sacrifices de communion. Un sacrifice de péché, c'est quand tout à coup, on s'est aperçu qu'on a fait quelque chose de mal. Eh bien, on s'arrête et puis on dit, Seigneur, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Et non seulement je te demande pardon en sollicitant que tu me pardonnes, mais aussi je te l'offre, Seigneur, je te le présente. Et toi, tu peux changer ce qui est mal en bien. Et puis, un sacrifice de communion, c'est, Seigneur, vraiment, je tourne la tête par la fenêtre et je vois un beau soleil, un ciel bleu. Et ça, ça réjouit mon cœur. Eh bien, je te loue, Seigneur, je te l'offre. C'est un moment de communion, ça vient de toi. Et je voudrais simplement me réapproprier cette communion que tu m'as déjà donnée, Seigneur.
Journée Lumière, c'est donc le 1er février prochain, ça sera la communauté des Béatitudes de Naï. Je rappelle le titre de votre livre, L'ange spirituel du mystère d'Israël. On fait une deuxième pause et puis on va retrouver Sœur Laetitia qui veut nous parler d'un accent particulier de la communauté des Béatitudes, l'attention pour les jeunes.
Présence à Super Bannière 94.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Zoom sur la communauté des Béatitudes, en l'occurrence celle de Naï. C'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin pour ceux qui nous rejoignent maintenant. Autour du plateau, pardon pour les autres, Moïse, frère consacré de cette communauté, responsable de la communauté de Naï, et Laetitia du Cœur de Jésus, vous êtes sœur consacrée de cette même communauté des Béatitudes et responsable de la communication pour cette dernière. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'avoir pris le temps donc de nous rejoindre ce matin, même si l'invitation était tardive. Donc charge à vous dans cette dernière partie de nous dire en quoi la communauté des Béatitudes est particulièrement attentive aux jeunes et nous parler des multiples propositions de cette même communauté. Et puis on finira par une proposition justement de la communauté des Béatitudes de Naï. On s'est dit qu'il pouvait être bon rapidement de redire aussi que le pape François a publié récemment une exhortation apostolique, Christus vivit, Si je ne me trompe pas, c'est donc la dernière exhortation apostolique. Exhortation apostolique qui faisait suite donc à un synode des jeunes. On en avait pas mal parlé à cette antenne. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette exhortation. Des expressions du pape François, entre autres, l'Église est jeune quand elle retourne à sa source. Dieu est l'auteur de la jeunesse, etc. Je voulais, au regard de votre expérience, peut-être un petit peu à la communauté des Béatitudes avec les jeunes, juste revenir sur deux, trois expressions et nous dire comment elles résonnent, même brièvement, selon vous, dans le cœur des jeunes. Le pape François, à un moment, une expression « je suis une mission », disant, en fait, chaque jeune pourrait se dire « je suis une mission ». Est-ce que c'est quelque chose qui parle à la jeunesse, ça, sur Laetitia ?
Oui, c'est certain. Oui. En fait, ces mots, le pape François les avait déjà employés, je crois, dans l'Evangelii Gaudium, hein, en les appliquant à tout baptiser, finalement. Mais c'est vrai que c'est une expression très forte et qui, je pense, touche particulièrement la jeunesse, parce que c'est un âge où on manque de confiance en soi, on se pose des questions pour l'avenir. Et de s'entendre dire que par sa vie elle-même, on est une mission, c'est-à-dire on est une parole pour le monde, c'est très encourageant. Et les jeunes ont besoin d'être encouragés. Hein, donc c'est une parole qui donne confiance aux jeunes. Et enfin, c'est sûr que dans la communauté, on a, moi, je pense que comme partout, hein, on a vraiment à cœur que les jeunes fassent l'expérience de l'amour de Dieu, cette expérience qui rend confiance, qui met debout, qui voilà. Et donc quand alors, on leur dit ça, ouais.
Alors je reprends l'expression, je suis une mission sur cette terre et pour cela je suis dans le monde. Le pape François, qui à un autre moment dit que chaque jeune doit entendre et se persuader de trois grandes vérités: Dieu t'aime, le Christ te sauve et il vit aujourd'hui. Il y a dans un autre passage comme ça, le pape François parle tout un développement donc sur les difficultés que le monde dresse face aux jeunes. Nous qui fréquentons peut-être moins la jeunesse que vous, si vous deviez citer une difficulté qui vous frappe pour la jeunesse aujourd'hui, quelle serait-elle ?
Je pense une, je pourrais dire en citer deux, hein, mais une, c'est la question de le vécu de la sexualité et de la chasteté. Hein. Il y a un désir de cette chasteté, mais il y a dans un contexte qui est quand même très érotisé, la sexualité est vraiment un peu idolâtrée, hein, autour d'eux, et ben une difficulté à la vivre. Et donc ils ont besoin d'être non pas seulement enseignés, mais surtout écoutés, accompagnés. Ouais, ça, c'est une première difficulté. Une autre, c'est aussi pour beaucoup de jeunes qui découvrent la foi, et une foi vivante, hein, et qui s'attachent au Christ, et ben c'est quand même le fait de se confronter à un monde qui va à contresens sur bien des points de leur foi, hein, puis qui est souvent montré du doigt. Et par exemple, des jeunes dans leurs études de médecine, d'infirmière, la question de la liberté de conscience, c'est un thème sur lequel on est souvent interpellé et sur lequel il faut accompagner les jeunes.
Donc des jeunes qui ont besoin d'être largement soutenus, d'être épaulés, d'être accompagnés, et puis des jeunes qu'il faut entendre parfois avec leur critique. Il y a une autre expression du pape François: prendre en compte la vision, voire les critiques des jeunes. On se souvient que ce synode avait eu une forme particulière avec une grande liberté de parole. Et il y avait même un certain nombre d'évêques qui avaient dit que ça leur avait fait le plus grand bien. Là aussi, parmi toutes les remarques, les choses que vous pouvez entendre de la jeunesse, qu'est-ce qui fait du bien à la communauté quant à la fréquentation de ces jeunes et à leurs remarques ?
On constate que les jeunes ils sont plus trop dans la structure, hein. Ils ont un peu du mal avec les vieilles structures, par exemple la paroisse ou des obligations de ce genre-là, parce qu'ils vont là où ils grandissent, où le Seigneur leur parle, et c'est pas toujours dans la structure la plus proche de chez eux. Alors nous, on fait une expérience particulière, c'est que dans nos préparations, la préparation des activités destinées aux jeunes, on inclut toujours des jeunes. Et c'est vrai que ça nous fait beaucoup de bien, hein, comme vous disiez que les évêques avaient été contents d'être un peu questionnés. Et ben nous, c'est l'expérience qu'on fait, hein, dans la préparation de nos activités. Souvent, des jeunes, par rapport à un programme ou des intervenants qu'on verrait super pour un festival, par exemple, certains jeunes nous disent, ça c'est complètement dépassé, non, c'est pas ça du tout qu'il nous faut. Et ça nous fait du bien, c'est important de travailler avec eux et de les rendre acteurs des propositions à destination des jeunes.
Voilà, il y a une autre expression, je crois, du pape François qui dit que quand le Saint-Esprit est là, c'est toujours un peu le bazar. Peut-être est-ce donc que la jeunesse est aussi plus remplie de Saint-Esprit qu'on l'imagine. Alors, parmi les multiples propositions de la communauté, je vous laisse nous faire une présentation un peu large. On peut trouver un programme qui est... voilà, vous êtes très fort en communication. On voit un jeune qui écoute un frère. Il y a différents jeunes sur un canoë kayak. Ils sont sur un lac et on a l'impression presque que le frère, la photo étant tellement bien faite qu'il marche sur l'eau. Notre attention est particulièrement portée donc sur les 18-35 ans. Il y a beaucoup de portes d'entrée, un festival l'été, et puis des temps de retraite, des temps de prière. On peut même partir en mission avec la communauté. Présentez-nous ces grandes portes d'entrée de cette attention que vous avez à la jeunesse, à la communauté des Béatitudes.
Oui, ben, j'étais touchée ces derniers jours. Je relisais une parole du pape Benoît XVI sur le prêtre, et qui disait que le prêtre doit être le spécialiste de la rencontre de Dieu avec les hommes. Et en fait, j'étais très touchée parce que c'est souvent comme ça qu'on parle de notre pastorale, et plus précisément la pastorale jeune à la communauté. Hein, c'est vraiment ce désir d'être au service de la rencontre des jeunes avec le Christ. Et donc, il y a la rencontre initiale, la rencontre avec un grand R, hein, de cette rencontre qui change la vie, qui est valable pour des jeunes qui sont loin de l'Église, comme pour des jeunes qui la fréquentent depuis l'enfance, mais qui n'ont pas forcément fait cette rencontre. Et puis, il y a la rencontre quotidienne, apprendre, être l'instrument pour ces jeunes d'une vie de prière, d'une vie sanctifiée, hein, comme vous venez d'en parler avec le frère Moïse, d'une vie qui est toute tournée vers Dieu.
Mais alors, les propositions, ouais. Sœur Laetitia, donc suivre Jésus, festival, retraite.
Oui, du coup, on a toutes sortes de propositions. On a des propositions qui sont plus spirituelles, comme des retraites. Et il y a un grand rendez-vous, c'est la retraite de Nouvel An chaque année, à Nouvel-Puzelier, où il y a 200 jeunes en partie en silence, avec des temps, avec des enseignements très riches, et puis des temps de prière, de louange, etc. Il y a un autre grand rendez-vous annuel, c'est le festival Open Heaven, à la fin de l'été, hein, du 24 au 29 août, toujours à Nouvel-Puzelier, parce que c'est un lieu qui se prête beaucoup à ce genre d'accueil, avec un festival, les jeunes sont sous la tente, il y a aussi des grands intervenants le matin, il y a des temps de jeu, des ateliers de toutes sortes, spirituels ou plus sportifs. Il y a des grands temps de témoignages, des veillées. Là aussi, les jeunes participent à l'organisation. Alors après, on a aussi, par exemple, tout un parcours de discernement qui est proposé à Nouvel-Puzelier sur 3 mois, avec 3 rencontres mensuelles qui permettent de prendre le temps de discerner sa vocation. Mais on a aussi cette proposition sous forme de retraite. Une semaine en Suisse, voilà.
On peut partir aussi en mission, donc avec la communauté des Béatitudes. C'est une autre de vos propositions. Dans le temps qui nous reste, est-ce que vous pouvez nous parler donc des on peut faire du sport. Voilà, vous essayez de rejoindre la jeunesse là où elle est. Donc du 16 au 22 février prochain, pour revenir à la communauté des Béatitudes de Naï, il y a un camp ski. Dites-nous, pour ceux qui nous écouteraient, pourquoi il faut s'inscrire à ce camp ski.
Eh bien voilà, joindre l'utile à l'agréable, joindre la proposition sportive, la détente en pleine vacances, et puis un temps fort spirituel, c'est vraiment l'objectif de cette semaine, hein, qui est destinée aux 18-30 ans. Alors, avec un petit groupe, hein, on se limite à 23 jeunes. Parce que c'est 3 véhicules pour aller, donc on est basé sur Naï, près de Lourdes, hein, et on va faire du ski à la station de Gourette. Et c'est un temps qui est très apprécié. Enfin, on n'a fait qu'une fois cette formule, mais vraiment les jeunes ont apprécié unanimement la diversité de ce qu'ils ont pu vivre, autant les propositions spirituelles avec la messe quotidienne, les temps de prière avec la communauté qui nous accueille, des temps de veillée, et puis aussi cette dimension sportive, et puis cette dimension aussi, comme c'était un petit groupe, des liens fraternels, amicaux qui se sont tissés et qui ont subsisté toute l'année. Voilà, donc il y a aussi 2 véhicules qui partent de Paris, donc c'est possible pour tout le nord de la France de se rassembler à Paris pour descendre sur Naï, et puis un trajet de Toulouse. Voilà, donc c'est c'est aussi l'occasion pour ces jeunes de faire la connaissance avec la communauté, puisque c'est le frère et soeur de Naï qui nous accueille.
Voilà, accueillis donc dans une ambiance familiale. Voilà. Donc si vous voulez aller faire du sport et puis être accueilli, je ne sais pas si c'est au coin du feu à la communauté des Béatitudes de Naï.
Exactement, au coin du feu.
Au
oui,
coin
oui,
du
tout
feu
tout
en plus, accueillis dans une famille et vous fortifiez, n'hésitez pas. Donc c'est du 16 au 22 prochain, quand ce qui est la communauté des Béatitudes de Naï. On finira donc en donnant l'adresse de votre communauté. On peut retrouver les multiples propositions. www.béatitude avec un s-nay.org, béatitude-nay.org, et puis certainement que vous renvoyez vers le programme de l'ensemble de la communauté si par hasard certains nous écoutent et ont d'autres questions. Je rappelle une dernière fois le titre de votre livre, Frère Moïse, pour aller plus loin dans un des charismes ou un des aspects de la communauté des Béatitudes, son attention donc au judaïsme, l'enjeu spirituel du mystère d'Israël, paru aux éditions des Béatitudes. Merci beaucoup à tous les deux. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.